Amen. Je vous salue à tous, frères et sœurs. Poursuivre ce sujet qui me préoccupe depuis plusieurs semaines, à savoir comment travailler pour que Dieu manifeste sa gloire. Car c'est la volonté de Dieu que sa gloire soit manifestée. Vous le croyez que c'est la volonté de Dieu ? Oui. Nous allons lire par exemple le verset qui nous a servi de conclusion ce matin. Dans Ésaïe, au chapitre 60, on voit que même si les ténèbres couvraient toute la terre, sur quelqu'un qui va se lever pour obéir, la gloire de Dieu peut apparaître. Ésaïe 60, versets 1 à 3. Ce sont des textes qui sont en même temps des promesses et en même temps des enseignements qui nous permettent de réaliser comment ça se passe si on se lève. C'est-à-dire si on se lève, c'est-à-dire si on se met en marche pour obéir à ce que Dieu demande. Ésaïe 60, verset 1er. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Vous croyez qu'on est là-dedans ? Vous voyez ? Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons, etc. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, dans un ensemble de peuples, de nations qui sont couvertes par les ténèbres, à partir du moment où quelqu'un va faire ce que Dieu lui demande, la gloire de Dieu peut réapparaître. C'est important que ce soit prophétique, hein, que ce soit prophétique pour notre pays, pour notre ville de Toulouse qui en a tant besoin. Mais pour cela, il y a toute une préparation. Par exemple, dans Ésaïe 40, on le voit. Il y a tout un travail à faire. La gloire du Seigneur ne s'est jamais manifestée comme ça, jamais. J'en ai parlé dans les dernières prédications, je n'y reviendrai pas pour ne pas alourdir la réunion, mais il y a une préparation. Regardez Ésaïe 40 au verset 3, Dieu dit ceci, voyez, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Vous voyez, même si ça va très très mal, parce que le désert, c'est pas le top niveau au niveau spirituel. Vous êtes d'accord avec moi ? Le désert, c'est là où ça va le plus mal. Mais voyez, même si on est dans le désert, on peut se mettre au travail et regardez la suite. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine. Ça représente beaucoup de travail tout ça. Et les défilés étroits en vallon. Alors, qu'est-ce qui est écrit après ? La gloire de l'Éternel sera révélée, au même instant, toute chair le verra. Voyez, s'il y a tout un travail de préparation, s'il y a ce souci de dire, eh bien, il y a du travail, mais on va s'y mettre. Oui, je suis dans le désert, ça ne va pas trop bien, mais je vais travailler, eh bien, Dieu ne se fera pas attendre. Quand le chemin sera prêt, la gloire de Dieu sera révélée, au même instant, il agira, il ne nous fera pas attendre, il se manifestera. Que Dieu soit béni. Mais suite à tous ces moments de réflexion personnelle, où je me tiens devant Dieu, où vous priez pour moi, pour que le Seigneur m'inspire, je suis profondément convaincu que si l'Église des actes baignait dans une atmosphère de sainte crainte, il faut que nous aussi, nous puissions avancer dans le royaume de Dieu avec cette sainte crainte. Et peut-être qu'il faut qu'on nous l'enseigne. Le proverbe 34:12, ne le cherchez pas, dit ceci, « Venez mes fils, écoutez-moi et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Si la crainte, c'est-à-dire la sainte crainte, le respect de Dieu, n'est plus dans les églises, c'est parce qu'on ne nous l'a pas enseigné. Ce n'est pas la faute des chrétiens, c'est la faute des pasteurs qui n'ont pas pris le soin, qui n'ont pas pris au sérieux cette immense vertu qui amène, on va le voir, la bénédiction du Seigneur. Et je vous assure, si bien des chrétiens ne vont pas bien spirituellement, je pense en partie que c'est parce que nous, les serviteurs de Dieu, nous n'avons pas été droits devant le Seigneur et nous n'avons pas enseigné des vertus aussi essentielles que la crainte de l'Éternel. Nous avons partagé plusieurs études, vous pouvez les commander, si vous attendez un petit peu, vous les aurez gratuitement sur le site internet, mais une chose est certaine, il y a un principe biblique. Dieu dit de mille et une façons, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui tremble à ma parole. Comment vous comportez-vous devant la parole de Dieu ? Est-ce la parole d'un homme ? Est-ce la parole de l'Église évangélique ? Ou est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu ? Alors on va lire un texte que Dieu a donné aux enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Ils avaient fait de très belles expériences. Ils avaient fait de belles expériences. Vous ne croyez pas qu'ils avaient fait de belles expériences ? quand Moïse est arrivé en Égypte, vous ne croyez pas qu'ils ont fait de belles expériences? Vous ne me répondez pas? Exode 20, verset 18. Ils ont fait de belles expériences. Ils sont au stade où Moïse s'est tenu sur la montagne. Ils viennent de recevoir les 10 commandements. Ils sont en pleine révélation du plan de Dieu. Ils savent qu'il y a des projets, qu'il y a un pays pas trop loin où coule le lait et le miel. Eux, ils en sont au stade de vouloir le lait et le miel. Ils n'ont pas compris que Dieu a d'autres choses à leur apprendre avant. Exode 18, 20, verset 18. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car, regardez bien, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. » Je répète, « Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Réaction, le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Dieu est en train de leur dire, « Je vais vous mettre à l'épreuve, afin que vous appreniez la crainte. » Pour que vous ne péchiez pas. Ça rejoint ce que je vous ai dit à plusieurs reprises. L'amour nous approche de Dieu, mais la crainte de Dieu nous empêche de pécher. Et si beaucoup de chrétiens rétrogradent, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu vous empêche de pécher. Écoutez, vous l'avez lu avec moi? Vous l'avez lu comme moi? Hein? Vous savez? On le relit. Dieu est venu, c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez pas. Dieu nous éprouve. Il a éprouvé les Hébreux. Eux, ils sont sortis d'Égypte. Ils sont sortis avec de l'or des Égyptiens. Vous savez à quoi ils s'en sont, pourquoi ils s'en sont servis? Ça fait pitié quand même. Hein, voyez, Dieu les a bénis. Ils en ont fait une idole. Pour vous dire que, voyez, des fois, Dieu peut nous bénir. Ça peut être un véritable danger. Dieu peut nous éprouver. Il nous éprouve afin que nous apprenions à savoir ce qu'il y a dans notre cœur. Nous croyons parfois nous connaître, mais nous ne nous connaissons pas si bien. Dieu ne nous éprouve pas pour savoir ce qu'il y a. Il le sait ce qu'il y a. Est-ce qu'il vous connaît, le Seigneur? Il le sait. Il n'a pas besoin de nous éprouver. Il sait. S'il nous éprouve, c'est pour que nous apprenions à voir exactement ce qu'il y a dans notre cœur. C'est important. Et il les a éprouvés. Il les a éprouvés, croyez-moi, ils ont fait des expériences plus grandes les unes que les autres. Ils venaient juste de vivre il y a quelques jours la délivrance, l'ouverture de la mer Rouge. C'était quand même un miracle ça. Pas un miracle, c'est un prodige. Non, je fais la différence entre les miracles et les prodiges, ce n'est pas le sujet. Mais en fait, quelle expérience, quelle bénédiction. Et Dieu voulait les éprouver pour qu'ils apprennent à avoir la crainte. Tant que Dieu bénissait, alléluia, il chantait, il célébrait, il dansait, alléluia. Mais dès que le Seigneur les éprouvait, ils murmuraient. Quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu les a conduits, au bout de quelques jours de marche, vers une source. Et qu'est-ce qui se passe? Cette source était amère. C'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont murmuré. Est-ce que Dieu savait que cette source était amère? Est-ce que ça ne serait pas même Dieu qui serait derrière tout cela, qui aurait éprouvé les enfants d'Israël en permettant que cette eau soit amère? Vous croyez que Dieu, avec ce qu'il venait de faire avant, je pense que ça ne devait pas être un gros problème pour lui de faire en sorte que l'eau soit bonne, non? Vous êtes d'accord? Dieu les a éprouvés. Et quand ils se sont retrouvés devant cette source, quand il dit, oh, laisse-nous servir les Égyptiens, mieux vaut pour nous, vous rendez compte, ils pensaient qu'à eux, mieux vaut pour nous retourner en Égypte et servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Ils pensaient à eux, ils ne pensaient pas au plan de Dieu, à l'œuvre de Dieu, à la souveraineté de Dieu, mieux vaut pour nous. Ils préféraient revenir en Égypte, leur ancienne vie d'esclave, que les épreuves permises par Dieu. Mais ça, c'est une question qu'on peut poser. Qu'est-ce que vous préférez? Revenir dans le monde, entre guillemets, peinard, ou être dans la volonté de Dieu malgré les épreuves qu'il peut permettre? C'est une question, ça, c'est une vraie question. Vous êtes d'accord avec moi? Hélas, Dieu le sait. Dieu voit comment vous répondez en ce moment dans votre cœur, parce que vous n'allez pas répondre à autre voix, bien sûr. Mais dans votre cœur, vous réagissez, vous dites, mais oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je préfère? Moïse a préféré être avec le peuple de Dieu, dans le désert, l'opprobre d'être conduit dans l'opprobre, plutôt que les trésors de l'Égypte. Moïse, lui, il y a longtemps qu'il avait fait le choix. Le problème, c'est qu'ils ne se connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas leur propre cœur. Ils n'ont pas accepté l'eau amère. Eux, ils voulaient de l'eau douce. Comment nous nous comportons si Dieu permet que nous soyons confrontés à un passage amer? Car la vie est faite de moments d'amertume. Oui ou non? Est-ce qu'on peut se retrouver parfois dans une situation amère? Ah oui, mais bien sûr. Est-ce que vous aimez les paroles amères? Est-ce que Dieu peut permettre que des fois la parole de Dieu soit amère pour éprouver notre cœur? Est-ce que c'est possible? Eh bien oui, c'est possible. Dans le Proverbe 27, ne le cherchez pas, verset 7, mais pour ceux qui prennent des notes, c'est quand même important. « Celui qui est affamé trouve doux tout ce qui est amer. » Et Dieu peut nous amener dans une certaine épreuve. Oui, la parole de Dieu peut être un petit peu difficile, un peu amère, mais je l'accepte parce que j'ai besoin de changer, j'ai besoin d'être purifié. À la Pâque, il devait manger des herbes amères pour comprendre certaines choses. Alors nous allons lire notre texte qui nous amène, je voyais, à la crainte et à la gloire. Tout ce que nous allons partager n'a qu'un but, la gloire de Dieu. Et je sais que dans cette ville de Toulouse, il y a des chrétiens qui sont soucieux d'être enseignés dans la crainte de Dieu afin que nous puissions voir la gloire de Dieu. Nous allons lire une lecture dans 2 Corinthiens au chapitre 3. Dans 2 Corinthiens au chapitre 3, vous savez que la deuxième épître de Paul aux Corinthiens fait très 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 souvent allusion au peuple dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il y a des similitudes avec la gloire de Dieu dans l'Église. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 15. Il parle du fait que quand il y a un voile devant nos yeux, bien sûr, nous ne pouvons pas voir, ça c'est logique. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 15. Regardez bien. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Quel passage! Si vous le lisez pour la première fois, ça ne vous dit pas grand-chose. Mais ce texte nous indique que lorsque le voile est ôté, nous pouvons être transformés et petit à petit voir la gloire du Seigneur. Vous vous souvenez, le jour où dans les évangiles, Jésus a posé cette question: vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous ne faites pas ce que je vous dis. Il l'a dit ça, le Seigneur? Il l'a dit. Vous m'appelez Maître et vous ne faites pas ce que je vous dis. Alors c'est vrai qu'on chante, hein, je reconnais ta royauté, je reconnais ta majesté. Vous l'avez chanté? Voilà. Ce n'est pas parce que nous chantons un si beau cantique que Jésus-Christ règne dans notre vie, qu'il dirige notre vie, qu'il gouverne notre vie. Vous avez lu la Genèse? Vous avez lu la Genèse? Vous savez que quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il lui a donné une immense autorité. Il lui a dit, tu domineras sur tout. Oui ou non? Sur tout. C'était une drôle de responsabilité et une grande faveur, un honneur immense de recevoir autant d'autorité, jusqu'à même donner un nom à tous les animaux. Dieu aurait pu, je veux dire, à lui-même donner un nom aux animaux qu'il a créés. Il me semble même que ça c'était à lui. Mais voyez, il a voulu nous donner une immense responsabilité, un immense privilège. Il nous a donné une immense autorité. Et en péchant, lorsque l'homme a péché, il n'a pas calculé les conséquences. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens qui pêchent, ils ne calculent pas les conséquences du péché. Quand l'homme a péché, il a perdu cette autorité et elle est revenue à Satan. Regardez avec moi, vous le comprendrez mieux en lisant Luc 4. C'est important de comprendre ces choses. Parce que si on veut comprendre la gloire de Dieu, il faut comprendre ce qui s'est passé. Dans Luc au chapitre 4, vous savez que c'est la tentation de Jésus dans le désert, et le diable propose à Jésus un plan très 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 intéressant, à savoir que de suite, Jésus gouverne le monde. Est-ce que c'était bien? Alors, Luc chapitre 4, verset 5. Regardez bien, le diable l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Pourquoi le diable voulait-il donner toute son autorité à Jésus ce jour-là? Parce que le diable ne voulait pas que Jésus passe par la croix. Si Jésus avait cédé à cette tentation, il aurait de suite été le roi, entre guillemets, mais la rédemption n'aurait pas pu avoir lieu. Vous comprenez? Il faut faire attention à certaines bénédictions. Si on ne passe pas par la croix, elles peuvent être dévastatrices. Donc, lorsque l'homme a péché, il ne s'est pas rendu compte qu'il a donné l'autorité à Satan. Vous l'avez vu avec moi. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, nous venons de le lire ensemble. Lorsque Jésus-Christ est mort au calvaire, il a racheté ce qui était perdu. Quand il a dit « tout est accompli », il nous donne tout à nouveau cette autorité, à condition que nous obéissions. Nous sommes devant un choix. Cet après-midi, je l'ai dit, nous sommes devant Dieu. Ce n'est pas une réunion d'évangélisation, c'est une réunion d'édification pour l'Église. Alors nous pouvons rester dans cette espèce de tiédeur, de misère, oui, de misère. Nous pouvons rester piégés, dominés. Ce matin, je discutais avec une jeune fille qui, après son baptême, est retournée aux sciences occultes. Vous voyez ce que je veux dire, cette jeune fille-là qui a eu une manifestation. Voyez, il y a énormément de chrétiens qui, malgré le fait qu'ils ont accepté Jésus-Christ, se font tout à nouveau piégés par le péché, aveuglés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le pouvoir de l'obéissance et les conséquences de la désobéissance. Je vous enseigne cet après-midi que par l'obéissance, on peut retrouver l'autorité spirituelle. C'est comme ça qu'on retrouve l'autorité spirituelle. Ce n'est pas avec des formules et des cris, c'est avec l'obéissance à la parole de Dieu. Et quand nous n'avons pas la crainte de Dieu, même si nous appelons Jésus notre Seigneur, notre vie n'est pas sous son contrôle ou sous son autorité. C'est pour ça que Jésus dit, mais pourquoi vous m'appelez Seigneur? Et vous ne faites pas ce que je vous dis. Mais quand nous avons la crainte de Dieu, quand nous sommes enseigner ou réenseigner, car après tout, c'est peut-être possible que quelqu'un ait oublié ces choses. Quand quelqu'un tout d'un coup dit, mais c'est vrai, on m'a beaucoup enseigné sur l'amour de Dieu, sur la miséricorde, sur la tendresse, sur la bonté, sur la faveur, etc., etc. Toutes ces choses sont également utiles, importantes et nécessaires, mais toute la vérité doit être prêchée et nous devons être enseignés dans la crainte de Dieu. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, c'est-à-dire le respect de Dieu, il va avoir le souci de se soumettre à la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'important. Oui, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? On l'a chanté tout à l'heure, le Seigneur peut nous poser la question, à vous et à moi le premier. Pourquoi tu m'appelles le Seigneur? Quand tu pries, Gérard, tu dis Seigneur, mais pourquoi? Tu devrais juste dire Sauveur. Parce qu'il y a une grande différence entre le Sauveur et le Seigneur. La Bible nous indique que nous nous trompons par de faux raisonnements, parce qu'en vérité, on vit comme si on n'appartenait pas à Dieu. Et il y a des chrétiens qui s'adressent à Dieu, qui parlent à Dieu, mais qui en vérité ont exactement le même comportement que les païens. C'est pas vrai? Et ça, c'est une pierre d'achoppement. Alors, on va parler un petit peu, avant d'aller un petit peu plus loin, du roi Saül. Vous avez tous lu l'histoire du roi Saül. Choisi par Dieu pour être le premier roi d'Israël, et Dieu va bien sûr lui donner certaines directives. Il a obéi, quand Dieu lui a parlé, il n'est pas parti en courant dans la direction opposée comme Jonas, non, il a obéi, mais il a obéi à sa façon. Regardez avec moi dans un Samuel chapitre 15, c'est important, c'est des textes, je ne sais pas si vous le faites, de reprendre les textes que vous entendez dans une église et de vous en resservir pour votre culte personnel. Donc Dieu donne ses directives par le prophète Samuel et Saül, lui, il va le faire. Il va le faire en partie. 1 Samuel chapitre 15 verset 12. Regardez bien les propos de Saül, les réactions de Saül quand Dieu lui parle. Ça vous amènera à examiner les vôtres. Je vous rappelle ce que j'ai dit en introduction, Dieu les a conduits dans le désert pour les éprouver, afin qu'ils sachent ce qui était dans leur cœur. Comment réagissez-vous quand la parole de Dieu est amère? Si une prédication est sévère, qu'est-ce que vous dites? Comme certains parfois qui sortent en me disant, « Oh, monsieur Gou, vos prédications, elles sont dures, vous savez. Hein? » Et je dis, « Mais ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Je l'entends dans la Bible aussi. » Il y a des gens, quand ils sortent, ils disent, « Merci Seigneur, merci. Merci, j'avais besoin d'être repris. Merci. » On voit les gens comment ils réagissent. 1 Samuel 15, 12. Il se leva de bon matin pour aller devant Saül. On vient lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Vous voyez, ça commence bien. Puis, il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, béni sois béni de l'Éternel. Vous voyez, j'ai observé la parole de l'Éternel. Vous voyez? Hey, quel culot, hein? J'ai observé la parole de l'Éternel devant le plus grand prophète qui existait à l'époque. Samuel dit, qu'est-ce que c'est ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés, oui, comme s'il était pour rien, oui. Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel. Qu'est-ce que c'est? Quelle bonne idée! À l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Il se met dans le coup parce que c'est ce que Dieu avait demandé. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant « Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, et tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» Saül répondit à Samuel « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. » Mais le peuple a pris sur lui, sur le butin, des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, écoutez bien, regardez bien, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car... La désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Vous voyez? Il a entendu la parole de Dieu et il n'en a mis qu'une partie en pratique. Il a fait à sa façon. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Nous nous réclamons haut et fort de mettre en pratique la parole de Dieu, mais nous nous autorisons en vérité à faire selon nos idées. Oui, il est écrit, c'est écrit comme ça, mais voilà. Moi, je mets mon petit grain de sel, je mets mes idées personnelles, je mets mes désirs personnels. Le résultat, en vérité, le problème en vérité, c'est que Saül craignait le peuple. Et vous savez, c'est un ou l'autre. Ou vous craignez Dieu, ou vous craignez les hommes. C'est l'un ou l'autre. Et quand on craint les hommes, on ne peut pas obéir à Dieu. Si vous craignez les hommes, il y a d'autres exemples, on ne va pas les prendre maintenant. Mais c'est un principe. Je craignais le peuple. Et lui, il dit qu'il a obéi, qu'il a observé, etc. Mais Dieu lui dit non. Ce que Saül appelle obéissance, Dieu l'appelle rébellion. Voilà ce que Dieu dit du comportement de Saül. Vous voyez, il avait désobéi. Pourtant, il était allé en avant, on a l'impression qu'il obéit. Mais en vérité, il fait à sa façon. C'est ça un esprit religieux. Pour beaucoup de gens, un esprit religieux, c'est être légaliste. Vous voyez les gens, tu fais ci, tu fais ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Ou alors l'inverse, cet esprit légaliste, voilà, c'est un esprit religieux. Non, l'esprit religieux, on utilise la parole de Dieu à sa façon pour faire sa propre volonté. C'est ça un esprit religieux. Et Saül a eu cet esprit religieux. On prend un peu de trois quarts de ce que Dieu dit, mais après on fait selon sa volonté. Voyez, et la crainte de l'Éternel nous évitera de tomber dans ces pièges. C'est quelque chose d'important. Alors on va lire justement ce qui est écrit dans Jacques. Là aussi, il parle d'un miroir dans lequel nous devons refléter notre visage. Vous connaissez ce texte. Jacques, chapitre 1er. Il y a une exhortation. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. La solution, elle est là. Jacques, chapitre 1er, verset 22. Il y a toujours cette analogie du miroir. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Alors Jacques est en train d'expliquer l'image du miroir. Ce qui se passe lorsqu'on n'est pas soumis à l'autorité du Seigneur. Bien sûr, nous croyons dans la parole de Dieu. Les croyants croient dans la parole de Dieu. Mais s'il n'y a pas l'obéissance à la parole de Dieu, c'est comme si rien ne s'était passé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est bien de croire dans la parole de Dieu. C'est bien de dire oui, tout ce qui est enseigné, c'est la parole de Dieu. Mais si, après avoir écouté une prédication, là c'est comme si on était devant le miroir de la parole, oui ou non? Oui, on est dans la maison du Seigneur, on est confronté à la parole de Dieu, dont nous sommes devant le miroir de la parole de Dieu. Mais tout à l'heure, si nous n'obéissons pas, je ne sais pas moi, dans une heure et demie, dans deux heures, nous serons dans nos activités, j'en sais rien, dans des choses, comment, dans quel état d'esprit serons-nous? Peut-être que nous aurons oublié tout ce que nous avons entendu sur la crainte de l'Éternel. C'est comme si nous étions partis sans nous être regardés. Nous allons oublier tout ce que nous avons vu. Il y a un voile devant nos yeux. C'est pour ça qu'il faut que ce voile soit ôté. Alors, tant que nous regardons le miroir, nous voyons. Et ça, c'est la palisse l'aurait dit. Tant que je suis devant le miroir, je suis en emphase. C'est d'accord. Mais dès que je m'en éloigne, c'est comme si j'étais aveugle. Et c'est pour ça qu'on a été étonnés de certains chrétiens. On se dit, mais quand même, quand on parle avec eux de Dieu, quand on parle avec eux à l'église, oh, mais ils sont super bien. Et puis, dans le monde, à l'extérieur, ils se comportent comme des païens. Ils ne sont pas hypocrites. Ils ne sont pas hypocrites, ce n'est pas l'hypocrisie. Bien sûr que ça en est. Mais en vérité, c'est que devant le miroir, ils sont éclairés. Et quand ils s'éloignent du miroir, ils sont tout à nouveau aveugles. C'est pour ça que Jésus dit, mais si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes tes ténèbres? Et on pourrait dire, mais c'est pas possible. Vous n'avez jamais été choqué par ce comportement de certains chrétiens? Ça ne vous a jamais choqué? Eh bien, vous avez de la chance. C'est bien, tant mieux. Hein? Et il y a des gens qui vivent exactement comme s'ils ne connaissaient pas Dieu. Il n'y a aucun changement. Ils fréquentent la maison de Dieu, ils sont d'accord, et même des fois ils pleurent. « Oh, monsieur Gau, merci pour cette prédication, ça m'a fait du bien. » Vous les voyez 15 jours après, un mois après, ils sont toujours dans la fornication, l'adultère, le mensonge, le péché. Et pourtant, quand ils sont dans la maison du Seigneur, ils sont en emphase avec ce qui est enseigné. Alors il y a un verset dans la Bible qui indique bien pourquoi il n'y a pas de changement. Lisez avec moi dans le psaume 55. Vous aimez les livres des psaumes? On croit connaître les psaumes, vous savez. Mais il faut s'y arrêter sur chacun pour en retirer vraiment l'enseignement. Psaume 55, verset 20b. Ça veut dire la deuxième phrase du verset. Regardez avec moi. Psaume 55, 20, la deuxième phrase. Car il n'y a point en eux de changement. Et il y a l'explication derrière. Et ils ne craignent point Dieu. Voilà l'explication. Il n'y a pas de changement dans le cœur de certains chrétiens, même si quand ils sont devant le miroir de la parole de Dieu, ils sont d'accord, parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Ils aiment Dieu, mais je l'ai dit, je le redirai, ce n'est pas une question d'amour sans amour, on n'est rien, c'est clair, ne nous leurrons pas, s'il n'y a pas l'amour, ça tout sert à rien. Mais il ne faut pas que l'amour. Voyez, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas de changement. C'est pour ça que parfois nous disons, mais comment ça se fait ce gars, les expériences qu'il a fait, comment il priait, comment il servait Dieu. Mais il n'y avait pas la crainte de Dieu. Ce matin, je donnais ce témoignage que pendant, il y a quelque temps de ça, j'étais attristé d'entendre des pasteurs qui chutent, qui divorcent. Ça fait pitié ça quand même. C'est un scandale dans le royaume de Dieu. Et j'étais en train de lire le livre de l'Ecclésiaste à cette époque-là. Je lis la Bible mécaniquement et j'étais en train de lire le livre de l'Ecclésiaste. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, il est écrit que ceux qui craignent Dieu échappent à toutes ces choses. Vous le lirez. Je peux vous donner la référence, je peux vous la donner. C'est dans l'Ecclésiaste. C'est quelque chose qui m'a énormément encouragé en même temps. Voilà, Ecclésiaste chapitre 7. Il est parlé en plus des pièges, des filets que les femmes peuvent provoquer à des hommes. Il est clair, voyez, mais on peut le lire après tout. Vous avez votre Bible ? Ecclésiaste 7. Il faudrait lire plusieurs versets. Mais regardez, Ecclésiaste 7, verset 18. Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges pas cela, car celui qui craint Dieu, vous êtes, échappe à toutes ces choses. Regardez, verset 26. « J'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. » Et je peux vous dire que ce jour-là, le Seigneur m'a parlé. Celui qui craint Dieu, il échappe à ces choses. Et Paul dit à Timothée, il parle de ces gens qui apprennent toujours. Ils apprennent toujours et ils n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Parce qu'il y a un voile devant leurs yeux et ce voile doit être ôté par une véritable conversion. Et si vous lisez 2 Timothée 3, verset 7, ça termine avec cette parole, ils finiront par s'égarer. Dans le désert, les enfants d'Israël ont souffert de cette cécité. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des prodiges, ils ont vu la main du Seigneur, ils ont célébré la Pâque. Quelle Pâque, quelle délivrance. Je parlais de l'or qu'ils ont pris des Égyptiens, mais ils sont sortis vraiment en vainqueurs. C'était une histoire merveilleuse. Des livres ont été écrits, des films ont été faits, parce que c'est prodigieux. Ils ont vu la puissance de Dieu, mais ils n'ont pas changé. Vous êtes d'accord avec moi? Ils n'ont pas changé. Pourquoi? Parce que le manque de crainte les a rendus aveugles. Ils ont célébré la Pâque, ils ont célébré la délivrance, ils étaient devenus le peuple de Dieu et ils n'ont pas pu rentrer dans les projets de Dieu. Mais quand tout à nouveau nous nous soumettons à la seigneurie du Seigneur, à l'autorité de Christ, c'est ce qu'on a lu dans Corinthiens, je l'explique maintenant, le voile est enlevé. Nous tous qui, le visage découvert, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur. L'Esprit, c'est ce que Jacques explique, lorsqu'on obéit, il y a ce miroir qui reste devant nos yeux. Et c'est ce que Dieu veut, que nous contemplions sa gloire. Vous voulez la contempler, sa gloire? C'est pour ça que c'est bien de temps en temps, chez soi, de rester en silence. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Nous l'avons lu l'autre jour, qu'il faut prêter attention à ce que nous avons entendu de peur d'aller à la dérive. C'est écrit dans Hébreux chapitre 2. Prêtez attention à ce que nous avons entendu. Alors, si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, c'est qu'il y a une explication. Si on aime Dieu, parce que quand même, c'est compliqué, mais il faut quand même l'expliquer. Si on aime Dieu et qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Parce que pour moi c'est très clair, mais si vous le reméditez tout cela, si vous cherchez les textes qu'on va continuer à partager, vous allez voir qu'un homme qui a la crainte de Dieu, il s'éloigne du mal. C'est écrit, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Vous voyez, j'aime Dieu, c'est bien, mais si je n'ai pas la crainte, je peux vivre dans le péché. Ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. Il dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que le service. C'est bien de servir Dieu, mais c'est mieux de lui obéir. Dieu, là, je suis, comme je disais ce matin, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis, moi, en train de servir ou en train d'obéir? Aidez-moi. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Est-ce que je suis en train de servir ou d'obéir? Les deux, oui, les deux. J'espère. Je peux servir Dieu sans lui obéir. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous me suivez? Et c'est ce que Dieu est en train d'expliquer à Saül. Dieu lui dit, voilà, mais tu dis que tu as obéi, mais en vérité, tu as transgressé ma parole. Parce que c'est bien d'obéir un peu, mais c'est mieux d'obéir entièrement. Et la crainte de l'Éternel vous permet d'obéir entièrement. C'est pour ça que nous devons faire attention à toutes ces choses, mes frères et sœurs. Voilà. Et si nous n'avons pas la crainte de Dieu, notre perception de Dieu est fausse. Quand Moïse tardait, ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu. Vous voyez, ils ont voulu un Dieu et ils se sont fait un Dieu à leur image. Et quand nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous ne faisons un Dieu à notre image, un Dieu qui nous ressemble. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens appellent Dieu papa. Vous voyez, ils se sont fait un Dieu à leur image. Ils considèrent le Seigneur Jésus comme un copain. Moi, je l'ai entendu, ça, des fois. Vous voyez, Seigneur Jésus, c'est mon copain. Et on enseigne ça aux enfants de l'école du dimanche. Et ça aussi, c'est écrit dans la Bible. Regardez avec moi dans le psaume 50. Vous voyez, c'est un psaume où Dieu veut parler. On voit que Dieu convoque la terre, il faudrait le lire en entier pour comprendre ce qu'on va lire. Mais Dieu veut parler, il veut parler, il veut parler. On sent que Dieu a des choses à dire, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Regardez avec moi, psaume 50, verset 20. Tu t'assieds. Tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère, voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Dieu ne parle pas. Tu t'es imaginé, vous l'avez ça, vous y êtes? Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Et voilà, et beaucoup d'hommes se sont fait une image de Dieu comme d'un grand-père, voyez, qui est gentil, qui passe sur tout, mais notre Dieu est un feu dévorant. Bien sûr que Dieu est un père. Et un Père merveilleux, et un Père plein de tendresse. Vous le croyez? Mais Dieu est saint, Dieu est juste. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu, il ne faut pas commencer à s'imaginer que Dieu nous ressemble, parce que là, il y a problème. Laissez-moi vous le dire. Et Paul dit aux Philippiens, mais il le dit à nous, en même temps, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Alors, j'ai parlé des enfants d'Israël qui, quelques jours après leur sortie d'Égypte, quand Dieu les a éprouvés avec de l'eau amère, ont commencé à murmurer. Aujourd'hui, on dit, ouais, murmurer, mais enfin, vous n'allez pas nous faire un flamme pour ça. C'est pas un problème. À cause des murmures, ils sont restés dans le désert. C'est pas compliqué. Regardez ce que Joseph a vécu. Combien d'années Joseph a-t-il souffert? 13 ans. Qu'est-ce qu'il n'a pas vécu de la part des inconvertis, mais aussi de la part de ses frères? Parce qu'on peut souffrir par les gens du monde, on peut souffrir par rapport aux frères. Ça aussi, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Jésus n'a pas souffert de la part de son peuple. Hein. De suite, dès qu'il a partagé sa vision, ils ont été jaloux et ils l'ont jeté dans un puits. Vous vous rendez compte? Ça a commencé comme ça, mais ça encore, c'est pas grave. Ils l'ont vendu. Ils ont vendu leur frère. Il faut y penser à le faire un truc pareil. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des esclaves. Mais il faut penser à le faire. Vendre son propre frère. Pendant 13 ans, ce jeune a été éprouvé. Vous avez lu certainement la Genèse. Combien de fois avez-vous vu Joseph se plaindre? Jamais. Jamais. Lorsqu'il est dans une situation difficile, vous l'entendez dire, c'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Jamais. 13 ans d'épreuve, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Quand il est en prison parce qu'il a obéi à Dieu, il n'est pas en prison parce qu'il a tué quelqu'un, il est en prison parce qu'il a obéi à Dieu. Il y a deux gars là, du gouvernement qui sont emprisonnés, il va vers eux pour leur faire du bien. Il n'est pas en train de bouder dans son coin, malgré le fait qu'il est dans l'épreuve, eh bien voyez, il fait du bien. Vous savez, ça c'est des petits secrets pour obtenir la bénédiction du Seigneur. Même si vous êtes dans l'épreuve, faites du bien aux autres.
Parce que je crois que même dans l'épreuve, on peut faire du bien aux autres. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Les enfants d'Israël, 3 jours, 4 jours après, hein, il valait mieux mourir dans le désert. Et voilà, et ils murmurent, oui mais c'est pas bien, non, c'est pas contre Dieu, c'est contre toi Moïse, changez-nous le pasteur. Et Dieu va intervenir, il dit, mais c'est pas contre toi Moïse, c'est contre moi. Quand on murmure, on peut murmurer, se plaindre par rapport à ci, mais est-ce que nous réalisons que quand nous murmurons, en vérité, nous nous plaignons de ce que Dieu permet dans notre vie, parce que quand même, il nous éprouve. Vous vous rendez compte, 13 ans, jamais il n'a murmuré. Et le résultat, c'est que Dieu l'a utilisé pour sauver toute une nation. Et ouais, parce que il ne s'est pas plaint. Alors, qu'en est-il de chacun de nous? Est-ce que vous murmurez? Joseph n'a pas murmuré. Dans toutes ses épreuves, il montrera une chose, qu'il avait la crainte de Dieu. Quand il a été tenté par la femme de Potiphar, qui certainement s'est montré dans ses plus beaux apparats, etc., parfumé, bien habillé, tout ce que vous voudrez, il a dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il avait tout simplement la crainte de Dieu. Et le résultat est merveilleux, Dieu l'a épargné du mal. C'est important ça. Et la crainte de l'Éternel est une force contre les pièges. On ne l'a pas lu ce verset, mais on pourrait le lire quand même. Regardez avec moi, Proverbe 14. Si vous avez une concordance, pendant des mois, vous pouvez faire une étude sur la crainte de l'Éternel. Proverbe chapitre, regardez, Proverbe 14. C'est ça, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Proverbe 14, des fois on lit vite, mais il vaudrait mieux des fois prendre un proverbe et le méditer toute la journée. Proverbe 14, 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. On peut lire un autre, 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Vous le croyez? Et voilà. Voilà comment, en prison, malgré cette injustice, il continua à craindre Dieu. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit que l'Éternel était avec lui lorsqu'il était dans la prison. Dieu ne nous abandonne pas, vous savez, quand on est éprouvé. Le Seigneur, il reste avec nous. Ce n'est pas beau, ça, de voir l'Éternel était avec lui dans la prison. Pourquoi? Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Les enfants d'Israël, ils murmuraient. Et le murmure, ce n'est pas grossier le murmure. Le murmure est quand même meurtrier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu rentrer dans le pays de la promesse. Quand vous craignez Dieu, vous faites très attention avant de parler, avant de murmurer. On vient de le lire, la crainte de l'Éternel est une force qui vous éloignera des pièges que le diable mettra devant nous. Parce que le diable, croyez-moi, il en présente des pièges. C'est pas vrai? Dans lequel nous pouvons tomber. Joseph a été dans un désert spirituel pendant 13 ans. Il n'y avait personne pour l'encourager. Il n'avait pas une église à laquelle se rattacher tous les dimanches ou tous les samedis pour aller être écouté. Il n'avait pas un ami, il n'avait pas des frères, il n'avait pas des pasteurs, il n'avait pas des livres, il n'avait pas, le Pentateuch. Il n'avait rien. Et Dieu l'a soutenu pendant ces 13 années. Il a évité la colère, il a évité la haine, il a évité le ressentiment, l'amertume, l'adultère. Il a tout évité pour la simple raison qu'il avait la crainte, oui, on l'a lu, la crainte écarte des pièges de la mort. Et Dieu a été fidèle. Et aujourd'hui, pour terminer, on continuera ce sujet mardi, mais Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui ont la crainte de l'Éternel. Il ne faut pas juste avoir le respect pendant qu'on lit la Bible, pendant qu'on est devant le miroir, il faut après être devant le miroir, eh bien, obéir à la parole de Dieu, c'est-à-dire de façon que le voile sera ôté, que nous serons devant la gloire de Dieu et que le Seigneur se manifestera. Aujourd'hui, les médias, vous avez vu comment les médias parlent de l'Église? Mais ils ont raison. Est-ce qu'on ne ferait pas pareil si on n'était pas chrétien? On ne ferait pas pareil? Sérieusement. Vous avez vu tous les scandales dans les églises, dans toutes les églises. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a ouvert la porte. Et on a tout fait pour on aura donné le flanc, comme on dit. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu cherche? Des hommes et des femmes qui offrent à Dieu un culte avec piété et avec crainte.
Alors c'est pour ça que j'ai commencé avec ce texte, « Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, la gloire de l'Éternel se lève sur toi, car voici les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, l'Éternel fait briller sa gloire. » Est-ce que vous aimeriez qu'il en soit ici? Ainsi, ici, est-ce que vous aimeriez? Est-ce que c'est possible? Soyons sérieux. Vous voyez, ne soyons pas des hypocrites, soyons vrais. « Oh Seigneur, oui, mais cet après-midi, c'était un peu amer. » Mais c'était mieux quand même. J'en avais besoin. Vous aimez des fois l'amertume de la parole de Dieu? Mes prédications amères, vous les aimez quand même? C'est bien. C'est bien. Dieu voit cette honnêteté. Vous savez, il y a une jeune fille qui était là dimanche dernier. Elle m'a dit, « Monsieur Gauss, si vous aviez prêché ce que vous avez prêché à l'église, ce que vous avez prêché dans mon église, il y a la moitié qui partait. » Et personne n'est parti. Il y en a un qui n'était pas content, mais il n'y en avait qu'un. Sur 250, c'était bien. Mais voyez, c'est là qu'on voit les gens qui ont la crainte de Dieu. Tu m'as béni, c'est bien. Tu me conduis dans une source un petit peu plus amère, je l'accepte. De toute façon, tu vas changer l'amertume en douceur. On le sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais quand même, quand on voit cette prophétie d'Ésaïe, on peut quand même s'autoriser à espérer qu'il peut se passer la même chose. Les ténèbres s'épaississent, les ténèbres couvrent la terre et les peuples, mais sur une église qui a la crainte de Dieu, la gloire de Dieu peut revenir. Et ça doit nous encourager. Seigneur, eh bien, inspire tes serviteurs pour nous enseigner la crainte de l'Éternel. Pardonnez-nous si nous, les pasteurs, nous ne vous l'avons pas enseigné. Ce n'est pas votre faute si on vous a enseigné que Dieu était comme nous. Dieu n'est pas comme nous. Dieu est un Dieu saint. La justice et l'équité sont la base de son trône. Et ne comparez pas sa justice avec la nôtre. À deux vitesses, une justice répressive qui n'a rien à voir, quand même, avec la justice divine. Attention, la justice est de Dieu, elle est juste, elle est sainte, elle est belle. C'est pour cela que nous ne pouvons pas croire autrement que sur des hommes, des femmes, une église qui se lèvera en disant « Seigneur, enseigne-moi la crainte de l'Éternel ». C'est le commencement de la sagesse. Et la sagesse a l'avantage du succès. C'est écrit. Alors, continuons à prier. Priez pour moi, pour que le Seigneur m'inspire au niveau de ce sujet qui pour moi est vraiment archi important. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais vous vous rendez compte de ce qui va se passer? Lorsque la crainte revient, lorsque le miroir reflétera la présence de Dieu dans l'Église. Et nous verrons la gloire de Dieu. Oui, la gloire de Dieu, elle ne vient pas là où on cautionne le péché. Ce matin, on m'a demandé d'afficher un concert d'évangélisation. Je vous le dis, c'est pour vous donner une image. Mais ce concert d'évangélisation est payant. Et j'ai refusé de faire l'annonce. Moi, je crois que nous avons reçu gratuitement. Et nous devons donner gratuitement. Faire payer l'évangile, moi, je trouve que ça devient très grave. Vous voyez, ce n'est pas la crainte de Dieu. Dans une église, quand on présente l'évangile, on ne peut pas faire payer l'évangile à des gens. Soyons sérieux. Vous êtes d'accord? Alors on pourrait prendre tous les exemples qui font que Dieu ne nous approuve pas. Mais voilà, ceux qui craignent le Seigneur verront la gloire de Dieu. Et nous voulons voir la gloire de Dieu sur nos enfants. Vous n'aimeriez pas que ces enfants ils grandissent dans une église où il y a la gloire de Dieu, sérieusement? Est-ce que c'est possible? Même si les ténèbres couvrent la terre, même si les ténèbres couvrent les peuples, est-ce que c'est possible? Eh ouais. C'est à chacun de nous de nous lever. Lève-toi, sois éclairé. Si un voile, ça va être difficile, très difficile, d'être éclairé. Mais si le voile est ôté par une sainte crainte, petit à petit, nous verrons la gloire de Dieu. Ce matin, il y a une jeune fille qui est venue. Elle est sortie en disant « Je suis libérée ». Elle a été liée, cette fille. On a prié pour elle. Elle est partie en disant « Je suis libérée ». Quand l'Esprit de Dieu agit, je crois qu'il y a des délivrances, des repentances, des conversions. L'œuvre de Dieu se fait. Voilà. Vous connaissez cette œuvre, on va se recueillir. On veut rester dans ce repos. Répondez à cette prédication. Peut-être il y a parmi nous des gens qui viennent, qui écoutent la parole de Dieu et qui ne la mettent pas en pratique. Ne voudrez-vous pas cet après-midi prendre la décision de vous repentir, de vous convertir? Y a-t-il quelqu'un cet après-midi qui vient? Vous venez parce que Dieu vous a béni, vous venez parce que vous aimez Dieu, mais vous n'arrivez pas à obéir, parce que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Ceci explique cela.
Et peut-être que cet après-midi-là, avant de prendre la Sainte Cène, enfin je m'adresse aux chrétiens, mais ceux qui ne prendront pas la Sainte Cène, qui sont peut-être encore dans leur péché, dans leur désobéissance, ne voulez-vous pas dire, Seigneur, cet après-midi, je prends la décision de t'obéir. Je prends la décision de mettre ma vie en règle. Je me repens, je me condamne et je reçois le pardon. Oui, Dieu veut vous bénir. L'eau peut être amère, ce n'est pas pour que l'amertume demeure. L'eau peut être amère pour qu'on puisse connaître son propre cœur. Connaissez-vous votre propre cœur? Voyez-vous ce qui se passe dans votre vie? Êtes-vous en train de vous approcher de Dieu? Vous avez vu le peuple? Quand Dieu a parlé, il s'est éloigné. Mais quand Dieu a parlé, Moïse, il s'est approché. La présence de Dieu vous éloigne-t-elle de lui ou vous permet-elle de vous rapprocher? Voilà. Seigneur, tu nous as laissé ta parole pour nous enseigner ton amour, ton immense amour, à Golgotha révélé. Et tu nous as laissé ta parole pour nous enseigner la crainte de l'Éternel. Et puisque nous voyons que c'est par la crainte que ta gloire se manifeste, alors Seigneur, enseigne-nous-la. De la manière la plus utile qui soit, avec Seigneur ta pédagogie que tu possèdes, pour que nous puissions avancer et voir sur ces ténèbres qui couvrent les peuples et la terre, voir dans nos maisons ta gloire se lever. Pour la bénédiction de ton œuvre, merci Seigneur Jésus.